VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
13h à Abidjan, 14h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. Au Mali, face à l'insécurité grandissante dans la région de Gao, les autorités locales ont pris des mesures pour faire face à la situation. Plus de détails avec notre correspondant à Gao, Boubacar Touré.
Dans le souci de sécuriser les personnes et leurs biens, les autorités de la région ont pris certaines décisions qui entrent en application à partir de ce vendredi, à savoir la circulation des motos à deux roues et à trois roues est interdite entre les villes et les villages dans toute la région de Gao. Le port d'une arme à feu est formellement interdit aussi en ville ou hors de la ville, sauf pour les militaires maliens et leurs alliés et les soldats du MOC, le mécanisme opérationnel de coordination. Le chef de l'exécutif régional, Seydou Traoré, a tout d'abord insisté sur les causes ayant mené les autorités administratives et militaires à prendre de telles décisions avant d'inviter les uns et les autres à faciliter le travail aux militaires maliens et étrangers qui se battent au quotidien pour le retour de la paix et de la sécurité dans la région. Les populations de la région de Gao comprendront la nécessité de prendre de telles décisions. White Indici, Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, 6 ans après la chute de l'ex-président Laurent Gbagbo, son parti, le Front populaire ivoirien, reste divisé par une crise sans précédent. Deux camps s'affrontent pour le contrôle du FPI et les tentatives de conciliation sont jusque-là restées vaines. D'Abidjan, les explications de notre correspondant sur place, Georges Ibrahim Tonkara.
Laurent Gbagbo et son épouse Simone en prison, c'est toute la machine FPI qui se trouve grippée. Deux camps revendiquent l'héritage du chef. D'un côté, celui de l'ancien Premier ministre Pascal Afingissan, reconnu par le pouvoir d'Abidjan, et de l'autre, celui de l'ex-ministre des Affaires étrangères, Abdourahmane Sangaré. Comment comprendre cette crise, Pascal Afingissan?
La crise est une crise d'abord pour savoir quelle nouvelle ligne adopter et autour de quelle personnalité construire l'avenir.
Laurent Akoun, vice-président du Front populaire ivoirien, tendance Abdourahmane Sangaré.
Cette crise est le fruit de notre histoire. C'est pas exact qu'un parti comme le FPI ne puisse pas connaître en son sein ce genre de situation. Ceux qui se réclament du FPI de M. Ouattara, ceux qui se réclament ne sont plus, pour un certain nombre et en particulier pour celui qui est leur chef, ils ne sont plus membres du Front populaire ivoirien.
Conforté par une décision de justice qui le reconnaît comme président du FPI, Pascal Afingissan s'évertue à ramener le parti dans le jeu politique. Pour lui et ses partisans, pas question de pratiquer la politique de la chaise vide. Afi veut donner une nouvelle orientation au FPI.
Le FPI a été perçu à un moment donné comme un parti fermé, sectaire. On l'a traité de parti de xénophobie, de ceci, de cela. Il faut travailler à élaguer toutes ces accusations.
Pour Laurent Akoun, la libération des prisonniers politiques et la mise sur pied d'une nouvelle commission électorale sont des exigences à satisfaire en vue du retour du FPI dans le débat politique.
Nous sommes dans le jeu électoral, mais nous ne sommes pas d'accord pour accompagner, pour donner une option à un processus qui est fondamentalement inique.
De nombreux militants du parti sont déboussolés et espèrent une fin rapide de cette crise. Pascal Afingissan.
À un moment ou à un autre, il faudrait bien que nous trouvions une solution. Soit on se retrouve ensemble, on fait l'unité du parti, ou bien c'est la séparation.
Le temps de la réconciliation est terminé. Afingissan ne fait plus partie du FPI, selon Laurent Akoun.
Il n'est plus de notre parti, puisque c'est un problème qui idéologiquement nous sépare.
Le fossé qui sépare les héritiers politiques de Laurent Gbagbo est encore grand et il faudra sans doute attendre le retour du chef charismatique pour que le FPI retrouve son unité d'antan. Georges Ibrahim Tonkara, Abidjan, VOA Afrique.
Nigeria, le président Muhammadu Buhari a suspendu mercredi deux hauts responsables de son administration soupçonnés de malversation. Le point avec Anastasie Toudjef.
Le chef de l'État nigérian a suspendu l'un de ses plus proches collaborateurs, le secrétaire général du gouvernement, David Babachir Lawal. Il est soupçonné de détournement de fonds destinés à l'aide humanitaire. Selon un rapport d'une commission sénatoriale, des contrats ont été attribués à des sociétés appartenant à M. Lawal, dont un contrat de prestation de services dans l'État de Yobe, où sévit Boko Haram. Le président Buhari a ordonné une autre enquête après la saisie à la mi-avril dans un appartement de Lagos de plus de 40 millions d'euros en liquide. L'Agence nationale du renseignement a revendiqué la totalité de la somme. L'enquête devra dire comment celle-ci a obtenu les fonds en question et s'il y a eu ou non violation de la loi. En attendant les conclusions de l'enquête, le patron des services secrets, Ayo Oké, est lui aussi suspendu. Le ministre de la Justice, le conseiller à la Sécurité nationale et le vice-président sont chargés des deux enquêtes. Leurs limiers ont 2 semaines pour présenter leurs conclusions.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Angola, 7 militants d'opposition ont été condamnés dans la nuit de mercredi à jeudi à une peine de 45 jours de prison ferme et près de $500 d'amende pour avoir manifesté en faveur de la transparence des élections générales prévues en août prochain. Parmi les prévenus condamnés, notamment pour rébellion, par la juge de la cour municipale de Kakouakou, un quartier de la capitale angolaise Luanda, figure le rappeur Adao Bunga, surnommé Mac Life, un militant du mouvement révolutionnaire pour l'Angola, très critique du président José Eduardo dos Santos. Les 7 condamnés avaient été interpellés par les forces de l'ordre lors de la manifestation lundi à Luanda en faveur d'élections transparentes. L'Angola va changer de président en août, une première depuis 1979. Il est arrivé au pouvoir de M. dos Santos. Son parti, le Mouvement pour la Libération de l'Angola, MPLA, part largement favori du scrutin qui devrait placer à la tête du pays le nouveau chef du MPLA, João Lourenço, un cadre du régime. Au Zimbabwe, des élections générales sont prévues l'an prochain, d'où l'annonce par le chef de l'opposition Morgan Tsvangirai et l'ex-vice-présidente Joyce Mujuru, mercredi, de la formation d'une alliance contre le président Robert Mugabe. Des détails avec Solange Nyamulisa.
Morgan Tsvangirai a déclaré que ce n'est que le début de la construction d'une large alliance pour affronter la ZANU-PF au pouvoir aux élections de 2018. Il a appelé le peuple zimbabwéen à unir leurs forces pour reprendre leur pays, leur liberté et leur dignité. Le chef du mouvement pour un changement démocratique a assuré que d'autres accords seront signés avec d'autres partis politiques pour former une grande coalition. Joyce Mujuru, ex-vice-présidente leader du Parti national du peuple, a précisé qu'il travaille sur ce projet depuis un an et ont hâte de voir le Zimbabwe redevenir le grand pays qu'il a été. Les détails de l'accord n'ont pas été divulgués. En août 2016, Morgan Tsvangirai et Joyce Mujuru avaient déjà animé ensemble un grand rassemblement contre les régimes de Robert Mugabe au pouvoir depuis 37 ans. À 93 ans, M. Mugabe a déjà annoncé qu'il sera candidat à sa propre succession en 2018.
En Afrique du Sud, plusieurs leaders de l'opposition et des militants de la société civile sud-africaine ont annoncé ce jeudi, leur rassemblement au sein du Mouvement de la Liberté, une nouvelle organisation qui appelle à des manifestations contre le président Jacob Zuma. Ce mouvement appelle les Sud-Africains à manifester le 27 avril, jour de la liberté, pour exprimer leur colère légitime contre les actions du président Jacob Zuma. Le président Zuma, empêtré dans plusieurs scandales de corruption, fait face à la grogne croissante de la population sud-africaine. Et pour terminer, ici à Washington, le secrétaire d'État américain a estimé mercredi que l'accord nucléaire avec l'Iran échouait à remplir ses objectifs. Rex Tillerson l'a dit après l'annonce de l'ordre donné par le président Donald Trump pour la réévaluation de la position de Washington face à Téhéran. Jean-Roger Bion.
La Maison-Blanche a certifié mardi que l'Iran respectait ses engagements au terme de l'accord négocié par l'ancien président Barack Obama. Mais le chef de la diplomatie américaine a estimé que cet accord n'était qu'une façon d'acheter le régime iranien et ne faisait que retarder le développement de son programme nucléaire. L'accord nucléaire qui a été signé en 2015 par le P5+1 avec l'Iran échoue à remplir l'objectif d'un Iran dénucléarisé, a déclaré Rex Tillerson lors d'une conférence de presse à Washington. Il avait déclaré mardi soir avoir informé le Congrès américain du lancement d'une étude demandée par le président Donald Trump pour savoir si l'allègement des sanctions envers l'Iran prévu par l'accord nucléaire correspondait à l'intérêt national des États-Unis. L'Iran demeure l'un des principaux pays qui parraine le terrorisme, avait alors écrit M. Tillerson. L'accord sur le nucléaire iranien, décrit comme l'un des principaux succès diplomatiques de M. Obama, est destiné à garantir la nature strictement pacifique du programme nucléaire iranien en échange d'une levée des sanctions internationales. Selon Rex Tillerson, cet accord est né, je cite, de la même approche défaillante passée qui nous a amenés jusqu'à la menace imminente actuelle venant de Corée du Nord. Fin de citation.
Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Oui, oui, oui.